Jean Perrier sort de chez lui. Il s'en va vers le Luxembourg d'un pas ferme et tranquille. Il se sent léger comme un enfant. Il est prêt à tout. Un ange viendrait lui annoncer le nouveau monde, il entendrait. Il approche des grandes grilles de la rue Guynemer, il franchit l'entrée, le voilà dans la grande allée. À droite les pelouses, les chemins ondoyants, les hautes frondaisons. À gauche on aperçoit la ville. Il y a du monde ce matin dans le jardin. Il fait beau, Jean Perrier va, d'un pas décidément alerte, parmi les flâneurs, les gens pressés, les enfants qui jouent. Un peu plus loin, vers les tennis, il aperçoit les ânes en promenade, avec des enfants dessus, les uns graves de l'aventure, les autres tout émoustillés et gesticulants. Voici qu'il longe le musée, et la rangée de chaises de fer, contre le mur, tout occupé. Il oblique vers le centre, il approche du grand escalier qui descend vers la pièce d'eau, il y est. Il est sur la première marche, en haut, et il voit. Ce n'est pas la vision obscure d'autrefois, c'est une vision éclatante. Et il voit qu'il voit. Non qu'il réfléchisse, qu'il s'examine au miroir, pas du tout. Aucune distance, il est dedans. Il est dans ce regard qu'il donne à toute chose, et son regard est doucement pris et aimé par cet éveil des choses, où Jean Perrier s'illumine tout entier, car la lampe du corps, c'est l'œil. Il voit ce qu'il a toujours vu, bien sûr. La pièce d'eau, le jet d'eau, la façade un peu sévère du palais du Sénat, et là-bas, la trouée de l'observatoire, et les massifs de fleurs, et les pelouses, et les pigeons, les merles et les moineaux, et les gens sur les chaises, les gens marchant, les enfants courant, les mères attentives, et tout près de lui, les ânes revenant. Et pourtant, ce qu'il voit, c'est l'envers lumineux du monde. À moins que ce ne soit l'endroit, et que notre regard ordinaire ne voit que l'envers de la tapisserie, confus et laid. De l'autre côté, la merveille. Monsieur Perrier, Jean pour ses amis, pour les femmes qu'il aime ou qui l'ont aimé, Jean laisse son regard se prendre et se promener sur ce qui lui est offert. Les gens, les humains, il voit. C'est quelque chose qui lui a été mystérieusement donné en ces mois, en ces années où il cheminait sans savoir, en ces années où l'âge, montant, commence à délier les liens de la vie. C'est quelque chose qu'il ne pourrait dire que de biais, s'il était poète par exemple, ou dans la rumination philosophique. À moins qu'il ne le dise tout droit dans cette suprême naïveté qui peut venir au plus vif du chemin extrême. De toute façon, il ne sait. C'est d'ailleurs de nulle part que vient cette étrange douceur dont il connaît qu'elle est plus violente que la haine. Il est là, il se tient là, sur ses pieds, aux stations debout improbables, et il est tout remué en dedans parce que ce qui remue les humains, tripes, cœur et cerveau. Mais ça ne fait rien, rien ne fait rien, il existe. Il est le premier jour. Il est nu comme Adam et vierge des douleurs infâmes où nous nous plongeons comme manque ce premier moment. Et voici que ce regard, M. Perrier le donne à tous ces gens qui sont là devant lui épars. La vieille femme, grosse, qui somnole, bouche ouverte. La petite jeune fille, chic, en mini-jupe noire et bas noir. Mère probable du gamin qui s'escrime sur son bateau récalcitrant. L'étudiant hâtif et barbu. Les deux filles traînant leur ennui en mâchonnant des sandwichs. Le gardien, sifflé en pectoral, un homme grave, qui marche gravement, le nez dans son journal. D'autres. Monsieur Perrier les voit tels, c'est à craindre, qu'ils ne se verront pas eux-mêmes, bien heureux, glorieux comme des anges. Chacun d'eux, en son cœur, en son centre, habité de la merveilleuse puissance qui peut transfigurer le monde et toute vie. Chacun d'eux unique, désirable, aimable infiniment. Et toute la saleté, la misère, le lâche, et tordu, et vicieux, et moche, et bête, qui tombe d'eux comme un triste déguisement de papier pour les laisser vibrants et vifs, comme au premier jour. Monsieur Perrier voit tous ces pauvres humains dans la lumière du premier jour, à moins que ce ne soit le dernier. Il pressent que s'il pouvait, à chacun d'eux, donner à entendre ce qu'il voit, et si chacun d'eux consentait à l'entendre, ce serait un changement prodigieux. Rien de magique, oh non ! Monsieur Perrier sait d'expérience que le changement, le très grand changement, est imperceptible, infime, un quasi-rien, une décision qui ne sait pas d'elle-même, le don fait en passant de je ne sais quoi par je ne sais qui. Mais c'est ainsi que va le commencement, c'est ainsi que la vie, la très improbable vie, a dû commencer sur la terre, dans l'immensité désertique de l'univers.